Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre.
Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les grossesses.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici. Ça faisait longtemps, il était temps de remettre le couvert, de repartir pour une petite heure ou presque où on va causer, débattre et se marrer un peu aussi tant qu'à faire, sans oublier de répondre à toutes vos questions. Et pour assurer ce retour aux affaires en fanfare, ils sont trois autour de la table ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut,
et Perrine Kenson, salut Perrine.
Coucou Thomas.
Apple qui nous rappelle la fragilité de l'écosystème des films numériques, la sacro-sainte chronologie des médias en passe de bouger alors que Netflix s'impose de plus en plus dans la cinéphilie mondiale, et la dernière résurgence de John Peters, jadis producteur tout-puissant, aujourd'hui abonné à la case Fait divers. Voilà les thèmes de ce Nos Ciné Club, dixième du nom, et c'est parti.
Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
Et avant toute chose, on vous le dit, on vous le rappelle, on vous le répète, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Premier sujet du jour. Beaucoup d'entre vous ont vu passer cette info, sans doute. Elle a fait grand bruit dans le petit monde des cinéphiles. Des utilisateurs canadiens de l'iTunes Store, la plateforme de films, musique et séries en ligne d'Apple, ont eu la désagréable surprise de découvrir que certains des films qu'ils avaient achetés en ligne avaient été supprimés de leur compte. Et lorsqu'ils ont demandé des comptes, justement, à Apple, ils se sont vus répondre que l'entreprise n'était pas responsable, qu'elle n'était finalement qu'un revendeur, et que si un studio décidait que son film n'était plus disponible sur la plateforme, eh ben, ils pouvaient rien faire. Alors depuis, on a eu quelques précisions. Il semblerait qu'en modifiant ses coordonnées de géolocalisation, on puisse récupérer certains films, mais tout de même, ça fait un peu réfléchir. À l'heure où on nous assure que le numérique a définitivement signé la mort du support physique, on se dit que finalement, un Blu-ray, bah, personne a priori ne viendra le reprendre chez nous. Stéphane, n'est-ce pas?
Bah, t'as tout dit.
Bah oui, bah voilà. Ça s'appelle lancer le sujet.
Exactement, mais t'as bien lancé le sujet.
Mais c'est un métier.
Ouais, je vois ça.
Merci.
Bah, en fait, le tout numérique, je pense qu'on confond un peu tout, malheureusement, dans ce genre de logique. C'est que le tout numérique, par exemple, c'est très très pratique pour des plateformes comme Netflix, où d'un seul coup, on te propose un package pour une certaine somme. Et voilà, ça c'est très pratique dans cette logique-là. Le support digital en soi.
Numérique.
Numérique, pardon.
Ce serait intraitable. C'est comme nominé, pareil.
Pourquoi pas si tu veux regarder des films sur ton iPad ou sur ton ordinateur. Moi, j'imagine que ça, c'est la jeune génération qui va dans ces directions-là, quoi. Effectivement, moi, je suis un peu vieux, donc un peu plus vieux, quoi. Et le truc, c'est que je suis habitué au support physique. La logique du support physique en soi, certes, ça prend de la place, certes, etc., etc. Mais effectivement, non seulement on peut pas te l'enlever, mais globalement, ça fait aussi support de, je sais pas comment dire, de. Enfin, moi, des fois, j'achète des films et je sais que la logique peut paraître complètement stupide, mais je me dis si un jour la Terre est détruite et que les extraterrestres arrivent sur Terre, en fait, j'aurais acheté la copie de ce film, tu vois, par exemple, Cadence de combat avec Hulk Hogan, et les gens sauront que ça existait, tu vois. Il faut qu'on se rappelle. Faut qu'on se rappelle que il y a des films, il y a certains types de films qui ont été faits, quoi. Non, blague à part, le truc, c'est que oui, en fait, pour moi, le support physique, ça a valeur, en fait, c'est comme une librairie ou un truc comme ça, ça a valeur de mémoire cinéphilique, en fait, qu'on peut retrouver.
Ça
parce
fait partie
que,
de ta grande entreprise d'archivage personnel.
Pas personnel, du monde. Personnel non, mais.
Bah, si, au cas où les extraterrestres arrivent.
Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que.
Et qui cherche des films avec Hulk Hogan.
Ouais, pas que Hulk Hogan, j'en ai plein. Hein. J'ai tout ce que tu veux, moi.
Ou Jean-Claude Van Damme.
Batista, tout ça. Bref, ah. et Jean-Claude Van Damme, tout à fait. Et le truc, c'est que. Mais ça reste. Ça, les gens, ils les téléchargent. Après, tu les retrouves sur Netflix et tout. C'est ça le truc, en fait. Non, la logique du support physique, en fait, l'idée. Même, alors après c'est peut-être un peu entre guillemets philosophique, mais le fait d'avoir, c'est pas que fétichiste en fait, mais le fait d'avoir une boîte, d'avoir quelque chose, etc., etc., ça tend à préciser que l'objet existe en fait en tant que tel, quoi. Je dis pas, hein, y a plein de films qui passent sans Enfin, tu les regardes et tu les oublies, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que, en fait, l'idée, c'est comme le support physique avec le livre, comme avec les magazines, avec ce genre de choses. En fait, j'ai du mal à croire, en fait, qu'on va se débarrasser littéralement du papier qu'on utilise depuis maintenant 2000 ans, en fait, et plus, quoi. Juste, en fait, parce qu'en un moment donné, en fait, on a la possibilité de le faire et qu'on va passer au tout numérique. Certes, c'est pratique. Certes, on peut arriver à avoir, des choses très rapidement, tout de suite, on peut acheter le journal du jour sans se le, à peine sorti de son lit, etc. etc.
Oui, donc, il y a histoire de gain de place aussi.
Voilà, en fait, il y a toute une logique de praticité, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'on précise spécifiquement qu'il faut passer, en fait, faire tout l'un ou tout l'autre. En fait. C'est ça que je trouve un peu étrange, et surtout, encore une fois, effectivement, dans une logique d'archivage, dans une logique de présentation aussi, c'est-à-dire que pour. Peut-être que je me trompe, mais j'ai envie de dire les cinéphiles, en fait, qui veulent savoir, en fait, comment un film est fait, comment un film se fabrique, bah, dans les objets on les a, en fait, etc. C'est sur Netflix, enfin, ça arrive de temps en temps un making of, un machin, un truc.
C'est très rare d'avoir les bonus, les making of, toutes les choses qui font la qualité. Et d'ailleurs, est-ce que justement l'irruption comme ça du numérique très très forte a pas poussé justement l'industrie à produire des Blu-ray avec de plus en plus de bonus? Est-ce qu'on y gagne pas quelque part?
Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi un cas très spécifique qui est lié au. Enfin, le Blu-ray, ça vend pas. Mais ça vend pas, en fait, en regard au DVD. C'est-à-dire que quand le DVD est sorti aussi, c'était, globalement, le cinéma à la télé, ça vend pas vraiment. En fait, faut être honnête, hein, quand on regarde historiquement parlant, quoi. Les VHS, ça coûtait une blinde, et c'était un support périssable aussi, hein. Le Laserdisc, ça coûtait, c'était pareil, c'était un truc d'initié. Le Blu-ray, c'est un truc de où les gens d'un seul coup sont passés à la HD et en fait on comprenait, mais il y a le numérique pardon qui est arrivé. Excuse-moi, j'ai vu ton regard inquisiteur. Et du coup, en fait, le DVD, c'est un peu le truc à part. En fait, c'est vraiment la bulle en fait où d'un seul coup les gens pouvaient commencer à une excitation autour de l'idée d'acheter des films en fait.
Surtout qu'il y a eu une phase où les DVD ne coûtaient pas cher du tout.
Bah au début, ça coûtait cher, ça a pris quand même. Et le truc, c'est que je pense que c'est cette bulle en fait qu'ils ont fait exploser, hein, à un moment donné, en rééditant parfois trois fois dans la même année certains films et tout ça, etc., qui font que en fait à un moment donné le public s'est lassé de continuer à acheter les choses en support physique. Il y a l'arrivée du numérique aussi, il y a l'ouverture d'internet, tout ça, mais c'est sur cette base là en fait que les studios se sont basés, en fait. C'est pour dire, en gros, tout simplement, comment ça se fait que le Blu-ray ne marche pas? Mais globalement, en fait, c'est cohérent que le Blu-ray ne marche pas, parce que je pense que quand tu réfléchis, finalement, à part peut-être, là je parle pas du public non cinéphile, en fait, à part peut-être des très très gros succès, les Disney ou ce genre de choses, finalement, je sais pas s'il y a tant de gens qui veulent absolument avoir des films chez eux comme. Le livre, à une époque, il n'y avait pas de choix, en fait. C'était tu l'achetais ou tu l'empruntais à la bibliothèque. Oui. C'était le support. Le cinéma, c'est encore autre chose, quoi. C'est-à-dire que voilà. Et du coup, effectivement, non. Pour répondre à ta question, effectivement, c'est les ventes du DVD, en fait, qui font que il y a eu beaucoup à un moment donné de soutien en termes de cinéphilie. On va dire, on va mettre des bonus, etc., etc., etc. Bon, souvent, c'était des trucs un peu promotionnels aussi, quoi. Voilà. Mais non, le Blu-ray, en fait, non. Puis c'est, au début, surtout, ça commençait à coûter cher à produire. Oui. Il fallait tourner aussi les bonus en HD, etc., etc. Donc non, en fait, ça c'est parti avec le temps, quoi.
Oui. Julien,
moi, ce qui m'interpelle pas mal dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on va, si ce mouvement-là continue, c'est-à-dire si le support physique continue à disparaître au profit du digital,
non,
du numérique.
Du numérique.
Voilà. Profit du numérique. Je savais que je me planterais. Putain, je me suis dit, faut pas que je me plante. Puis ça y est, je me suis trompé.
C'est pas grave.
Mais bon, voilà. Donc, c'est que on revient en fait à un rapport au cinéma et au film ancien, en fait. C'est-à-dire que finalement, pouvoir posséder soi-même chez soi le film, c'est une récent, en fait.
Film,
hein.
Oui.
Ça date des années 70, où tu pouvais commencer à avoir une version expurgée des grands succès du moment en Super 8. Et puis après, tu as eu l'arrivée de la VHS, etc. Et du coup, tu as eu une autre façon de vivre ta cinéphilie qui a existé. Mais avant ça, en fait, c'était compliqué de voir les films. Et les films, tu pouvais chérir, du coup, le souvenir que tu avais des films, parce que tu étais... t'avais aucune garantie de pouvoir les revoir ensuite parce que ben il y avait plus de copies, il était plus en circulation, que posséder ta propre copie c'était alors là ultra onéreux, il fallait avoir l'équipement, etc. Et c'est assez marrant cette histoire d'Apple parce que ça te rappelle que la fragilité en fait de ces supports là pourrait te reconduire en fait là-dedans où tu pourras avoir des films comme ça qui disparaissent, que tu ne possèdes plus. Alors que je pense que quand tu es cinéphile, amateur de cinéma, acheter le film, c'est garder une trace, c'est savoir que ce film-là, tu l'as à disposition et qu'il est encore là et qu'il ne va pas disparaître et que tu pourras le revoir. Donc c'est assez curieux. Et effectivement, cette affaire, elle est amusante parce qu'elle elle nous rappelle que bah, ce n'est pas parce que tu achètes un film en numérique que tu vas le garder. Parce que ça ne t'appartient plus en fait, quoi, et que effectivement la justification d'Apple, ben, elle est imparable. Ils ne sont que les exploitants, ils sont pieds et poings liés à d'autres. Alors que tu te soustrais à toutes ces problématiques-là en fait, toi, en achetant le film auparavant, quoi. Donc voilà. Et moi, je serais content aussi que les supports physiques continuent parce que avec le support physique vient une espèce de cérémonial. Le concept même du menu en fait qui est apparu avec les DVD, ben c'est une façon en fait de t'introduire au film. Alors c'est parfois lourdingue, c'est parfois déplacé, c'est parfois super moche, etc. Mais
parfois c'est terrible, tu t'endors devant un film, tu te réveilles et ça fait une heure et demie que le générique tourne en
voilà
boucle,
c'est
sur
ça
sur le menu, et puis tu l'as dans la tête pendant trois jours après.
Non mais voilà, je suis aussi
histoire vécue.
très voilà. Je suis aussi très attaché en fait au support physique et surtout qu'il vient avec un vrai effort éditorial qui est en train de complètement disparaître dans le numérique, qui va aller en s'aggravant d'ailleurs puisque du côté des labos en fait qui conçoivent le contenu en fait, on va vers une automatisation à l'extrême pour avoir comme ça des flux de contenu alors que ce qui est intéressant dans les laserdiscs d'abord et puis après ce qui a migré vers les DVD, a été popularisé en tout cas avec les DVD et puis a continué avec le Blu-ray, c'est qu'il y avait un travail qui était effectué autour du film, c'est-à-dire qu'on ne te donnait pas que le film. Là maintenant on arrive aussi à une époque où on ne te donne que le film finalement et évidemment pour nous, moi ça me manque, mais je pense que même s'il le forme, il va pas le formuler comme ça, le grand public, je pense que lui aussi, ça va peut-être au bout d'un moment lui manquer.
Perrine.
En fait, avec cette affaire, il faut aussi voir que le mec qui a lancé l'histoire d'Apple, là, ce qui a fait parler, c'est que ce type-là donc, vit au Canada, mais est australien et a acheté ces films-là. Donc c'était Cars, Cars 2 et j'ai oublié le dernier, Grand Budapest Hotel d'ailleurs. Et il les avait achetés en Australie. Et il a déménagé et il ne les avait pas téléchargés. Ouais. C'est-à-dire qu'il les avait achetés, mais il ne les avait pas téléchargés
physiquement. Physiquement.
Il ne les avait pas téléchargés. Il n'avait pas fait l'acte de les télécharger. Le problème, c'est qu'en changeant de territoire, il a changé aussi de territoire d'Apple Store, et c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes contrats qui sont faits entre le Canada et l'Australie par rapport à Disney. Donc en fait, c'est sûr que par exemple dans le cas de Cars, je prends le cas de Cars, et donc c'est pas les mêmes conditions. Potentiellement, il a peut-être aussi acheté une version australienne qui n'est pas une version canadienne, donc c'est pas forcément la même chose. C'est pas soumis aux mêmes règles encore une fois. Et donc c'est pour ça qu'il peut pas le récupérer. C'est pas Apple qui l'a supprimé, c'est pas Disney qui a dit t'as plus le droit de l'avoir, c'est qu'en fait il y a un changement de territoire, donc c'est un truc qui rentre en compte, qui n'est pas le cas par exemple dans les supports physiques. Enfin, après on avait les problèmes de dézonage, je me souviens, il y avait les zones 1, les zones machin, mais bon ça c'est une histoire de technologie. Là d'un seul coup on a une histoire de règles, de lois, de contrats. Et donc en vrai le mec n'a pas perdu ses films, il les a, il suffirait qu'il se remette sur la time zone de l'Australie et il peut les récupérer. Il les a pas perdus définitivement, c'est juste que d'un seul coup on rentre dans une autre problématique qui n'est pas la même problématique que le support physique, comme vous le disiez, le DVD ou le Blu-ray. Après Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu un emballement autour de l'histoire d'Apple, mais c'est pas, Apple n'a pas délibérément supprimé quelque chose en disant toi t'auras pas ton film quoi. Donc c'est pas tout à fait ça. Après c'est sûr que pour le coup il y a ça va être des nouveaux risques. Après le truc c'est que le DVD, pourquoi la VHS, les gens encore des VHS mais plus personne quasiment, à part certaines personnes qui ont su garder leur lecteur VHS, tant mieux pour eux, moi je l'ai plus, il marche plus et ça sert à rien. On va aussi un problème de perte de technologie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça sera peut-être bien d'avoir une belle collection de DVD, et j'en ai une jolie, j'en suis ravie. Le problème, c'est que si un jour j'ai plus les instruments pour pouvoir les lire, ça va être c'est problématique aussi. Donc ça pose une question encore plus grande pour moi que simplement support physique, support numérique, c'est support de conservation des films, c'est-à-dire comment on conserve dans le temps ces œuvres. Donc le film restera toujours l'œuvre de le support de base, c'est-à-dire que même un film qui est tourné en numérique, il a droit à une copie en 35 ou il a une copie en tout cas en pellicule parce que c'est le moyen de conservation le plus sûr d'une certaine façon.
Parce que c'est fou quand on sait à quel point c'est périssable.
Bah, c'est périssable, mais en même temps, on l'entretient, on le met dans des champs, etc. Mais c'est parce que c'est le plus sûr, d'une certaine façon. Alors que le numérique, potentiellement, il suffit qu'on l'a enregistré dans tel codec, et qu'en fait, d'un seul coup, ce codec-là est disparu et qu'on puisse plus y accéder. Et c'est le cas. Il y a déjà des choses qui ne sont plus viables en vidéo, qui étaient viables il y a ne serait-ce que 20 ans, et qu'on ne peut plus retrouver. Ça existe déjà avec la télévision, par exemple, des choses qui ont été enregistrées pour la télévision et qu'on ne peut plus accéder parce qu'on n'a plus les bons outils pour pouvoir les lire. Donc, en fait, c'est-à-dire que pour moi, c'est un débat qui est vrai et faux. C'est-à-dire qu'en soi, il faut. C'est très bien, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'adore avoir des DVD, mais au bout d'un moment, j'ai un souci de place, donc je ne peux pas non plus les cumuler. Je trouve ça super d'avoir une bibliothèque. Dématérialisé, merci, c'est le mot que je cherchais. Voilà, numérique. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça aussi, ça va évoluer. Donc, par quelle méthode on va pouvoir conserver quelle sera la vidéothèque du futur? J'en ai aucune, ça, à ce niveau-là, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses physiques, c'est très bien. Il faudra qu'on puisse continuer à pouvoir les lire.
Oui. Mais en fait, ça, c'est évolutif, en fait, la vidéothèque.
Pas tant que ça, du coup, vu que ce qu'on disait sur la conservation des films, c'est pas tant que ça évolutif.
Sur ce point spécifique, mais par exemple l'idée même, la question de pourquoi les Blu-ray vendent pas, pourquoi ce genre de choses, pourquoi en fait un truc comme Netflix existe. Netflix c'est une conséquence directe du téléchargement C'est à un moment donné, quand c'est devenu hyper facile de télécharger des films et que t'avais plus le FBI qui t'insultait parce que t'es en train de voler le film alors qu'en fait tu l'as acheté, que t'as tous ces trucs là, etc. Ben, je pense que le grand public s'est dit bon ça c'est facile d'accès, je peux les regarder, ça me coûte rien. Voilà, ça me coûte un peu de bande passante et je vois les films. Et du coup la solution de Netflix, c'est à un moment donné de dire en fait on vous réunit tout ça sous un package. Donc encore une fois, pour des trucs de consommation courante, pour moi en fait, si tu veux, je comprends totalement la logique du numérique. Pour effectivement
je donne des bons points à chaque fois que quelqu'un dit numérique.
mais c'est vrai que après cette idée, je pense qu'il y a, je prends toujours l'analogie de la bibliothèque en fait avec des bouquins et des trucs comme ça, mais je pense que pour les gens qui aiment lire, moi c'est plus mon cas depuis très longtemps, mais le truc c'est que pour les gens qui aiment lire, il y a quelque chose de rassurant en fait de se retrouver entouré de livres en fait. Et ben pour les cinéphiles, si on pouvait se le payer, on aurait probablement des comme Tarantino des bobines et une salle de cinéma, Mais le truc c'est que en attendant, on a les Blu-ray ou les Blu-ray 4K ou les trucs comme ça, etc. parce qu'il y a effectivement le plaisir de revoir le film sous une nouvelle remasterisation, l'idée de se dire on peut toucher à ça. Mais c'est vrai que chaque support a sa problématique de toute manière, quoi qu'il arrive. Les laserdiscs, il y en a eu une pelletée qui était ce qu'on appelait les laserdiscs crotte en fait, qui se périssaient au fur et à mesure parce que la couche de compression
rot
comme pourrir. Ouais,
disque rotte, mais non, j'avais pas, enfin c'est pas grave.
Oui, moi j'ai pas entendu.
Ouais, toi aussi, ouais, d'accord.
Pourrir.
On a entendu crotte.
Rotte. Je sais que vous entendez que des gros mots dans ma bouche, mais quand même,
c'était assez drôle, c'était mignon.
Je sais que j'en dis beaucoup, c'est vrai.
Rotte n'est pas un gros mot.
Certes.
C'est familier, on va dire.
C'est mignon.
C'est ça. Voilà. Et donc le truc, c'est que
c'est qu'il pourrissait.
Il pourrissait parce que t'avais la couche de compression en fait qui se décollait en fait. Les DVD, les Blu-ray, il y en a. Ça arrive tout le temps, surtout en France, j'ai l'impression. Mais chez les éditeurs français, mais chez les éditeurs français, c'est assez bizarre, quoi. Ça doit être un truc qui coûte moins cher, quoi. Mais donc oui, effectivement, il y a cette il y a chaque support à physique et numérique a ses problèmes, quoi. Bien. Mais Mais voilà, mais après, je pense que... et en fait, il y a aussi ce rappel qui est très, très, je trouve, dans ces collections-là. Parce que là, on parle de Cars, mais Cars, normalement, c'est un film que tu trouves partout. Je suis sûr que même sur l'iTunes Sri Lankais, il y a Cars, quoi.
Bah, pas sur l'iTunes canadien. Possible,
tu vois. Non, il y est.
Ça s'appelle Voiture.
Il y est sur l'iTunes canadien. Il y est. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes. Encore une fois, c'est pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes droits. C'est-à-dire que d'un seul coup, il l'a acheté sous certains types de droits en Australie, et là on est sur d'autres types de droits. Et au bout d'un moment, peut-être que la trans. Parfois, et d'ailleurs c'était marqué dans le truc, il disait vous pouvez récupérer, mais ni pas tous en fait. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est
peu importe pourquoi, le truc c'est la fragilité en fait du numérique. Oui, moi j'ai à une époque j'achetais des albums en fait sur iTunes, et puis j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais attends. Déjà, avec leur système fermé, c'est toujours compliqué si tu changes de truc et tout.
Il n'y a plus de DRM maintenant sur iTunes.
Et puis surtout, mais je ne sais pas moi, si Apple plante, etc., je ne vais pas avoir de traces en fait, de ça. Donc il y a quand même une fragilité réelle, en fait, je trouve, qui ne t'appartient pas, en fait, qui n'est pas de toi, que tu ne peux pas voir venir.
Et surtout, on peut le télécharger concrètement.
Ce qui est pire que ça pour moi, c'est justement c'est qu'il y a une certaine manière de rappeler, et pourtant même si tu l'as payé physiquement, enfin je veux dire, parce que pour le coup ton fric tu l'as vraiment lâché, quoi, c'est une manière de dire des ayants droit, des studios, etc., ça nous appartient en fait, c'est à nous, et même si t'as payé, en fait t'as payé juste un passe droit, t'as pas payé en fait l'œuvre en question.
S'il l'avait téléchargé avant en Australie, il n'aurait pas eu ce problème là, il l'aurait gardé sur son ordinateur. Le problème c'est qu'il l'a pas téléchargé entre guillemets à temps dans les règles où il les a achetés. Donc en vrai, tu peux l'acheter, le télécharger, et si tu veux être sûr que ton ordinateur plante pas, qu'iTunes plante pas, et bah tu le copies tu le graves à l'ancienne sur un DVD. Enfin, je sais pas du tout comment.
Donc, autant acheter le DVD.
Mais oui, autant d'acheter le DVD dans ce cas-là. Mais on en revient à la même chose, c'est-à-dire dans ce cas-là, autant être tous Tarantino et avoir de la pellicule et un cinéma. Mais le problème, c'est qu'on n'en est pas.
J'ai envie de me projeter là.
Imagine.
On n'en est pas là, mais c'est-à-dire que c'est le dénominateur le plus commun et le plus celui qui permettra que ça se garde le plus longtemps en soi. Finalement, parce que la technologie sera la moins périssable possible. Et en fait, mais toutes sont périssables et toutes ont leurs conditions toutes ont leur date de péremption en fait, et même le numérique. Donc, et le numérique, ça fait d'autant plus peur parce que pour le coup, c'est même pas, comme tu disais, avec le DVD qui est en train de pourrir entre tes mains, où c'est visuellement physique qu'il y a un problème. Là, tu sais même pas potentiellement d'où vient le problème. Donc c'est un peu plus effrayant parce que le problème nous échappe totalement des mains. Donc c'est juste ça, c'est juste un peu plus flippant. Mais par contre,
c'est la problématique de base. Quoi.
Tout sont des problématiques.
Oui. Très bien, ok. Donc bref, c'est foutu, on va finir tous par perdre tous nos films.
Exactement, on pourra se les raconter et on reviendra à l'art oral.
Venez.
On reviendra aux histoires orales.
Si ton appart prend feu, Stéphane, il n'y aura plus de Blu-ray. Bah ouais,
si les extraterrestres arrivent,
bah oui, bah voilà.
Mais on se racontera les histoires.
On se racontera des histoires.
J'ai
vu ce film, tout du feu. Un jour, j'ai vu ce film avec Hulk Hogan. C'était vachement bien. Le No Ciné Club continue, c'est désormais une tradition pour notre prochain sujet. Prochain sujet, oui, et bien oui, on joue. Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table, un quiz dédié au format qui a accompagné notre cinéphilie débutante, à nous qui sommes vieux, la VHS. Et ouais, 5 questions vaches, vraiment, vraiment super vaches sur les bonnes vieilles cassettes. Celui qui trouve le plus de réponses récolte notre admiration éternelle. Je pense qu'on peut envoyer le petit chronomètre, Quentin, merci beaucoup. Première question, que veut dire VHS ?
Vidéo, home...
Système.
Une réponse collective. Réponse collégiale. Vidéo Home System, c'est tout à fait ça. En quelle année sont sorties les premières VHS dans le commerce ?
Dans les années 70 ?
Ouais,
72.
Au 20e siècle, non.
73 ?
Non.
74 ?
Non.
75 ?
Non.
81 ?
Raté.
Oh. Non, c'était avant 77.
Non.
78 ?
Mais non.
Oh.
Mais t'as pas dit 76 ?
Ah, 76, putain, c'est
bon. T'es passé entre 75 et 77. C'était fin 76, donc c'est une mauvaise réponse.
Mais moi, j'étais plus Betamax, non, je déconne.
Ouais, bien sûr. Ouais. Les trois premières VHS publiées aux États-Unis sont sorties en 77, le même jour. Mais de quel film s'agissait-il ? les trois premières VHS américaines, non ?
Non.
Bah non.
J'aurais envie de dire Star Wars, mais non.
C'était avant Star Wars. Ouais. C'était pas des films de 77, c'était des films qui étaient déjà sortis avant.
Plein la gueule avec Burton Reynolds.
Non.
Non, merde.
Tu pas.
Il y avait sûrement un Clint Eastwood là-dedans.
Non, il y
avait. Cléopâtre.
Non.
Le pont de la rivière, quoi.
Non.
Autant n'emporte le vent.
Non. Deux films de guerre, quand même, dans les trois.
Les 12 salopards.
Non. plus proche de 77 quand même. Pas très longtemps avant, quoi. Bon, je vous l'ai dit. C'est Patton.
De l'or pour les braves.
Patton. Mash.
Ah,
et La Mélodie du Bonheur. Eh ouais.
Films de guerre.
Ouais, bon. Plus ou moins.
Bah,
et le dernier film, vous savez quel est le dernier film sorti par un grand studio en VHS?
La Reine des Neiges.
Bienvenue chez les Ch'tis.
C'était en 2006, le dernier film sorti en VHS. C'est La Reine des Neiges.
La Reine des Neiges est sortie en VHS.
Non.
Ouais.
Si,
et Bienvenue chez les Ch'tis aussi.
Bienvenue chez les Ch'tis aussi.
Non,
donc
mais je parlais d'un film américain.
Tu me feras le plaisir,
ouais, mais c'est un gros film.
Tu me feras le plaisir de réviser tes fiches.
Ah bah ouais, parce que moi j'avais History of Violence de Cronenberg comme étant officiellement la dernière VHS.
Le meilleur. Et en fait, ils ont relancé les machines pour La Reine des Neiges.
Ah là, incroyable.
Et Bienvenue chez les Ch'tis, bordel, c'est sorti en VHS.
C'est pour ça que je viens encore, parce que dans le Nord, je peux témoigner, tout le monde n'est pas encore passé.
Quel le Nord à la Fnac à Paris, tu pouvais l'acheter en VHS.
Mais il y a des gens du Nord qui viennent à la Fnac à Paris.
C'est ça le truc.
Elle est venue, puis elle n'est pas repartie.
Elle a acheté la VHS.
Elle a acheté la VHS, puis elle n'est jamais repartie. Elle est à Paris. J'ai encore une question. À la fin des années 90, on l'a dit, le DVD remplace la VHS. Saurez-vous me dire quel film hollywoodien fut le premier
sorti sur ce format? Pas ça.
Matrix.
Non.
Quel film fut le premier quoi?
Film hollywoodien fut le premier à sortir en DVD.
Matrix, c'est le premier que j'ai acheté, c'est pour ça.
Mars Attacks.
Non.
Putain, Starship. Non, attends.
Non, c'est après.
En quelle année
c'est pas Mission Impossible.
Non,
c'est pas Mission Impossible.
En
ça,
quelle
je
année
sais.
T'as dit
j'ai pas noté l'année, il me semble que c'est 96 ou 97.
C'est un 97, film Warner,
je crois.
Titanic.
C'est un film Warner, non?
Ouais, je crois que c'est,
ah, c'est ça. Mais parce qu'en fait, c'est Contact.
Non.
Merde,
tu te rapproches un peu.
Mais non, mais parce que je me suis lancé très vite dans le DVD, moi, à l'époque. Donc, mais c'était sûrement un film que j'ai pas acheté, en fait.
Je sais pas si tu l'as pas acheté, celui-là.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est un film Warner, c'est sûr, parce que c'était les premiers. Ah, Twister.
Mais oui, c'était
Twister. Non, je l'ai pas acheté parce que Twister, non, ça va pas ou quoi?
J'en sais rien.
Mais c'est pas Warner, Twister.
Ah si, c'est Warner aussi.
Ah ouais.
Bon. Bah alors.
C'est trop bien.
C'était ça. Non, c'était bien Twister. C'était très bien. Non, mais oui, mais vous êtes vieux, hein. Nous on est plus jeunes en fait, c'est pour ça. C'est,
donc vous avez
meilleur
moins
goût.
Bon, ouais.
Meilleur, non, meilleur, goût,
meilleur,
goût, meilleur goût.
De la
ça.
Tolérance pour l'époque. Nous. Voilà,
non, mais ça. La même année était sorti Congo.
Non, c'était l'année d'avant.
Ah ouais, c'était l'année d'avant.
Ouais, ouais. Vous
non, la même année, il y avait The Rock de Michael Bay.
Ah bah voilà.
Ah bah
ouais. Ouais, vous les avez vus au cinéma.
Hein. Bah, The Rock, ouais, ouais. Bien sûr, hein. Trois fois.
Vous aviez déjà de la barbe et tout ça.
Exactement.
Mais ouais, bravo, fini de jouer, on continue. Et on reste dans le merveilleux monde du numérique qu'on évoquait à l'instant pour aborder un gros dossier de la rentrée, la chronologie des médias, la célèbre, notre petite exception culturelle à nous qui régit le parcours d'un film entre sa sortie en salle et son arrivée sur nos écrans à la maison, longtemps supposée inaltérable, intouchable, elle est sur le point de bouger sous les coups de boutoir des nouveaux usages numérique. Un accord entre le gouvernement et les principaux acteurs du secteur est sur le point d'être finalisé, même si je crois que la signature n'arrête pas d'être repoussée, ce qui nous donne par ailleurs l'occasion de recoser un peu de Netflix qui ces derniers mois a remis quelques grosses claques dans la figure de la production traditionnelle en raflant notamment le Lion d'Or à Venise avec Roma d'Alfonso Cuarón, l'une de leurs prises de guerre. Est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de tout ça? On va en causer. D'abord, un mot sur ce dossier chronologie avec notre spécialiste, c'est Perrine Kenson.
Spécialiste dossier relou.
Spécialiste chronologie des médias. Perrine, on en est où?
La chronologie des médias, oui, pour l'instant, la signature n'arrête pas d'être repoussée. Mais déjà, il y a plusieurs. Ils se sont plutôt mis d'accord. C'est déjà quand même pas mal, ce qui est quand même. Parce que c'est une belle arlésienne, hein, la chronologie. Oui. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va la réformer. Ça fait longtemps que personne ne fait rien. Et là, en fait, ils sont. Les associations, les organisations du cinéma, un petit peu tout le monde s'est mis d'accord. Ils sont autour de la table, ils sont OK. Il y a encore des petites discussions avec OCS, Canal+, mais ça va signer là. Ça va, c'est à ça.
Ça y est, c'est là. Les gars sont dans l'entrée.
On est là, les gars. Alors, qu'est-ce qui change? Beaucoup, pas grand-chose. Voilà. Donc, en gros, pour la faire courte, en soi, un film resté en salle 4 mois.
Oui.
Et après, il pouvait arriver en DVD, VHS, non, DVD, VOD, donc au bout de 4 mois. Donc ça ne change pas, si ce n'est qu'on peut avoir une dérogation maintenant à 3 mois pour les films qui n'ont pas fait plus de 100 000 entrées en 4 semaines, dans leurs 4 premières semaines.
Okay.
Donc si on n'a pas fait 400 000 entrées dans ces 4 premières semaines, on peut sortir au bout de 3 mois en DVD ou en VOD.
100 000 entrées.
J'ai dit quoi?
400 000 entrées.
Non, 100 000 entrées. Ouais. Voilà, si on n'a pas fait en 4 semaines.
Mais
voilà.
On peut donc tromper 1000 fois. Ouais. 100 000 entrées, mais pas.
Donc on a le droit à cette dérogation.
Okay.
Alors après, pour arriver sur Canal+, qui était. Donc les films arrivaient au bout de 10 mois sur Canal+, Canal+ et OCS réclamaient 6 mois. Alors ils l'ont presque eu, puisque ça marche, c'est à 6 mois pour ces films qui ont eu cette dérogation à 3 mois avec l'histoire des 100 000 entrées. Sinon, c'est 8 mois. Ils l'auront au bout de 8 mois, les films. Donc normalement, c'est comme ça. Mais ils sont encore en égo. Sinon sur les plateformes, alors les plateformes ça y est maintenant ils s'attaquent, parce que le vrai problème c'était les plateformes. Donc les plateformes n'avaient les films qu'au bout de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans.
Tout à fait. Mais je suis, hein, je t'écoute.
Au bout de
3 toujours.
Ans, ce qui faisait gueuler un petit peu tout le monde, et notamment Netflix, qui refuse la sortie en salle. Donc, c'est-à-dire que si le film sortait en salle, Netflix ne pouvait récupérer que 3 ans plus tard. Et donc là, cette fois-ci, pour les plateformes vertueuses, comme ils les appellent, les plateformes vertueuses, c'est celles qui respectent la législation française et qui ont un accord avec les organisations du cinéma, donc qui font du préachat de films, ouais. qui promouveront la diversité, mmh. et qui apporteront des MG, donc des minimums garanties, c'est de l'argent qu'on met sur des films, mmh. par abonné.
C'est qui ça ?
Qui ça ?
C'est qui les plateformes vertueuses du coup ?
Eh bien, je ne sais pas qui sont ces gens. Eh bien, ces plateformes-là, elles auront les films au bout de 17 mois.
D'accord.
Voire 15 mois pour les films qui ont eu, encore une fois, la dérogation des 3 mois au tout début. Celles qui font un accord avec les organisations du cinéma, mais un accord léger, c'est-à-dire sans préachat, sans diversité, sans MG, mais qui respectent notamment l'autorisation de sortir en salle, ouais. Notamment Amazon, ce qui fait Amazon fait quelque chose comme ça, eux, ils l'auront au bout de 30 mois. Et les plateformes Boo comme Netflix l'auront toujours à 36 mois. Ça
D'accord.
ne bouge pas.
Ah, donc pour eux, ça change vraiment rien
ça,
du tout.
Ça change rien pour elles.
En gros, tout le monde va télécharger, quoi.
Ouais.
C'est tellement le bordel là, que.
Oui.
Non, mais voilà, en soi, ils essayent de bouger un tout petit peu, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça qui va relancer potentiellement Canal+.
Alors, sur FreeTorrent, ils l'ont quoi hein
Ils l'ont au bout de 18 heures.
Au bout de 18 heures, c'est un peu
Incroyable.
Ça. Donc voilà, c'est ça qui arrive, mais c'est vrai que pour l'instant, comme tu disais, il y a un coup de butoir de Netflix, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de vouloir nier que Netflix, ça, c'est une. Parce qu'on pouvait dire pendant un moment, bah, Netflix, le seul truc qui est bien, c'est les séries. Mm. Et là, bah, dégaine un Roma, parce que c'est vrai que jusque-là, le cinéma. C'était pas franchement imposé sur Netflix,
non.
les productions Netflix du moins. Et dégaine un Roma à Venise qui remporte le Lion et qui est très très bien senti pour les Oscars. C'est vrai que. Et qui maintenant va être projeté au Festival Lumière.
De Thierry Frémaux.
De Thierry Frémaux, ce qui est un petit peu drôle quand même, puisque Thierry Frémaux, enfin en tout cas, Thierry Frémaux, le Festival de Cannes n'autorise pas les films qui ne sortent pas, qui n'ont pas prévu de sortir en salle dans leur compétition. Mais par contre, ils ont droit à Lumière, donc c'est plutôt amusant, pourquoi pas.
Ouais, peut-être que ça. Il y a un message, je pense.
Bah, peut-être que ça va préfigurer, en effet, peut-être un nouveau changement encore à Cannes. Ça,
en tout cas, je pense que Lumière, t'as l'impression que c'est. Toutes ces frustrations sur Cannes, il les gère avec.
Bah, disons qu'il a moins de. La pression n'est pas la même à Lumière, parce que c'est du cinéma de patrimoine, quand même. Ça revient avec la discussion qu'on avait avant sur la conservation des films, etc. Ouais. Mais donc, c'est du cinéma de patrimoine. Donc, la pression n'est littéralement pas la même qu'à Cannes, où c'est des films qui vont sortir. Et là, le fait que Roma soit diffusé, c'est une exception liée au fait que Alfonso Cuarón est l'un des invités du Festival de Cannes. Du Festival de Cannes, du Festival Lumière cette année. Donc, voilà, après, la question qui se pose avec cette nouvelle chronologie, c'est est-ce que déjà elle arrive à temps ? Non.
Non.
Et,
la
deuxième chose, c'est à quel moment, comment on va pouvoir enfin, à un moment donné, parce que l'exception culturelle, elle a un sens en France. C'est-à-dire qu'elle a un sens parce que c'est comme ça qu'on on organise les financements des films, en fait. C'est-à-dire que on a un financement qui est plutôt très efficace en réalité en France par rapport à beaucoup d'autres pays. Et il est basé sur ce système-là, sur ce système de chronologie qui fait qu'à chaque fois, chaque personne que je viens de citer, les VHS, non, je crois que j'arrête, elles n'existent plus. Les DVD, la VOD, enfin les chaînes, etc. Tout ça, ce sont des maillons d'une chaîne. À chaque fois, il y a de l'argent qui va là-dedans, qui va servir au financement des films et aux aides aux salles, aux aides aux distributeurs, aux aides à la production. Donc en fait, tout ça, à bout d'un moment, sert à ce que les films soient produits en France. Et donc, comment on fait pour continuer à avoir ce système virtueux-là, alors que Canal+, qui est l'un des plus gros financiers du cinéma, est en souffrance terrible. Enfin, le truc, il vit quand même. Il vit avec une. Enfin, je sais pas. J'ai pas de termes médicaux parce que j'ai pas fait médecine. Mais il vit.
Résistance respiratoire.
Morphine, résistance respiratoire, tout ce que vous voulez. Donc, il vit un petit peu là-dessus. Et donc, comment on fait pour que lui continue à financer des films ? Parce qu'il en finance plus de 100 et quelques par an. Donc, c'est hyper important. C'est 12,5% de son chiffre d'affaires qui finance le cinéma français. Donc, c'est. 9,5% des 12,5%, mais peu importe, j'arrondis. Et en gros, donc le problème, c'est comment on fait avec ça ? Comment on fait pour qu'on garde ces financements-là, les financements liés aux DVD, etc., liés aux chaînes, pour que, et derrière, en même temps, inclure ces plateformes qu'on ne peut pas continuer à nier l'existence de ces plateformes, nier la pratique des spectateurs, qui, eux, Enfin, au bout d'un moment, de vouloir se dire non, les Français, ils ont pas. Ils ont, j'ai une caméra, je peux faire des gestes, mais ils se mettent des œillères. Et donc, ils se disent bah non, les Français, ils sont pas sur les plateformes, ils continuent d'aller au cinéma. Oui, ils vont au cinéma et on a l'un des le plus beau public du monde. Mais par contre, au bout d'un moment, ils sont aussi sur les plateformes. Oui. Donc, comment on les accueille? Ça, je pense que cette chronologie n'a pas encore. Et en faisant des plateformes super vertueuses et pas vertueuses. Bah, le truc, c'est que d'un seul coup, on met des bonnets d'âne et je suis pas sûre que ça soit une solution à long terme.
Mais c'est tellement français de mettre des bonnets d'âne. Je précise que cette question de la chronologie des médias, ce sera le sujet du premier épisode de Besoin de rien, envie de droit, qui est notre podcast juridique. Ouais. Car oui. Car
avec
oui,
nous avons la super Clara.
Avec Clara Kane, effectivement, podcast juridique de Binge Audio, qui sera en ligne le 3 octobre.
Parce qu'attention, il faut dire que la chronologie des médias, ce n'est pas une loi, hein. C'est un accord interprofessionnel.
Mais justement, le gouvernement fait peser la menace d'une loi.
Exactement. Il est en train de faire la menace d'un décret.
Voilà, mettez-vous d'accord, sinon on passera par la loi. Julien, Stéphane, sur cette question de Netflix qui entre par la. A essayé d'entrer par la petite porte, il va finir par entrer par la grande en arrivant par les festivals.
Mais moi, je sais pas. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, il y a un décalage entre la réalité et le système français, qui est effectivement vertueux hein, à plus d'un titre, mais qui aurait besoin d'une refonte totale en fait. C'est-à-dire que le problème, moi, dans cette, parce que c'est pas la première fois que Perrine en parle ici là, mais. Le souci, c'est qu'on voit bien que on essaye de rafistoler avec des petits bouts de scotch un truc qui est en train de couler de toute façon, et que il faudrait repenser en fait la totalité en fait du mode de fonctionnement du financement français et tout. Ce qui est facile à dire et encore, mais à faire, c'est extrêmement difficile quoi. Et je me demande ce qui va sortir de tout ça. Le truc par contre, c'est que moi, ce qui m'interpelle et qui est assez neuf pour le coup, je trouve, c'est le fonctionnement de Netflix vis-à-vis de ses grands auteurs.
Oui.
Parce que moi, j'ai une pratique de Netflix depuis 4 ans. J'aurais pas de raconter d'annerie, mais quelque chose comme
2014,
ça.
Oui.
Et ce que j'observe, en fait, c'est que le mode de financement de Netflix reflète, à mon avis, leur grande faille. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, vous allez peut-être me faire mentir parce que je connais pas forcément tout le catalogue Netflix et tout, mais Netflix, ça reste des suiveurs. Hein. C'est-à-dire que leur gros coup, c'est de prendre des auteurs qui sont déjà extrêmement installés, qui sont Cuaron, qui sont Bong Joon-ho, qui sont les frères Cohen. Et je n'ai pas vu Netflix encore révéler des nouveaux auteurs, se risquer à amener quelque chose qui est neuf, même sur des séries qui sont excellentes comme Black Mirror et
alors,
tout.
Je ne sais pas si c'est excellent Stranger Things, mais c'est censé révéler.
Oui, mais alors voilà, pour moi, Stranger Things, c'est le truc effectivement qu'ils ont révélé. Et je trouve que c'est d'une faiblesse.
On parle un peu plus de séries télé. C'est la série télé où ils donnent plus d'opportunités à des jeunes voix, mais en cinéma, il y a eu The Bad Batch ou ce genre de choses qui sont des films d'auteurs de cinéma de genre, pas connu du grand public, mais qui en tout cas ont déjà fait leur preuve un tout petit peu. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, pour le coup, ils n'ont pas financé un premier film de fifou. Quoi.
Mais je pense que ça va aussi avec leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire que Netflix, ils sont peu, voire pas du tout, en fait, à l'origine des projets. C'est des gens qui viennent ultérieurement, qui font des promesses de diffusion et qui donc là-dessus vont avancer du pognon, etc. mais c'est pas un studio de cinéma en fait en tant que tel. C'est de ce que je connais en fait du fonctionnement de Netflix, c'est-à-dire que ils viennent en support en fait à quelque chose pour l'instant en tout cas. Et alors il y a un truc qui est encore un peu plus grave, je trouve, là-dedans, c'est que et qui correspond un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure sur la dématérialisation, c'est que je trouve que en plus, non seulement ils révèlent pas, mais alors, je vais pas dire que c'est un cimetière parce que le terme serait beaucoup beaucoup trop fort évidemment, mais je trouve que les films qui sont exploités uniquement sur Netflix s'atterrissent dans une espèce de non-lieu. C'est-à-dire que moi, un film comme Okja par exemple, qui est un film que je possède pas, bah je sais que il y a un rapport bizarre en fait avec Netflix qui est encore très différent des autres, où je sais que le film, je l'ai parce que j'ai Netflix, mais il n'est pas devant moi. Et puis du coup, je ne l'ai pas vraiment parce qu'il appartient aussi un peu à Netflix. Il est sur leur plateforme, il n'est pas chez moi ou il n'est pas sur mon disque dur. Et du coup, je trouve qu'il y a une... Encore une fois, peut-être que l'avenir va me faire mentir et tout là-dessus, mais il y a c'est une tendance, c'est pas une règle systématique, mais il y a une petite dégringolade. Quand un grand auteur arrive sur Netflix, souvent c'est pas le pinacle en fait de sa carrière pour l'instant. C'est un petit temps mort, c'est un petit truc où tu attends que la suite arrive et tout pour l'instant, hein, enfin donc, alors, tout n'est pas comme par exemple, je sais pas moi, Sense8, où vraiment quand tu arrives à la troisième saison, tu dis mais les Wachos c'est mort quoi, ils sont enterrés, donc tout n'est pas là-dessus, mais c'est
ce sont des films fait non
non mais bon mais ce sont des films, on n'est pas là pour parler de Sense8, mais en tout cas c'est je trouve que c'est pour l'instant en tout cas une étape de la carrière des cinéastes qui récupèrent, qui est un peu qui marque le pas quoi, qui est, alors peut-être parce que ils sont pas exploités pareil, peut-être parce que tu n'as pas du tout pour le coup de cérémonial autour du film, c'est-à-dire que quand tu vas voir Okja ou quand on va voir le prochain Scorsese par exemple sur Netflix, bah tu vois chez toi, t'attends, enfin c'est pas la même chose quand même quoi, tu vas pas avoir un même souvenir similaire que lorsque même tu vas acheter en fait ton disque et que tu l'as attendu et que tu es passé à la caisse et que t'as pas pu le voir tout de suite, t'as une immédiateté et voilà, et du coup encore une fois un non-lieu dans l'exploitation cinématographique qui n'aide pas trop.
Il y a un problème de qualité aussi, hein, parce que quand tu regardes un film sur Netflix, la compression, c'est pas la même encore une fois qu'un objet physique. Hein. Je veux dire, tu prends un film sur Netflix, tu prends ton Blu-ray, tu vois la distinction tout de suite, même si c'est en HD 1080p quoi. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord. Je sais pas si, par exemple Okja, pour prendre l'exemple que tu as donné, en fait c'est déjà le déclin de Bong Joon-ho à ce moment-là. Moi je crois pas en fait. Je pense que quand il fait Snowpiercer et qui en fait, même si moi j'aime beaucoup le film, et qui se fait littéralement laminer par les Weinstein pour la sortie américaine et qui se fait couper dans tous les sens, je pense que oui, là je comprends la logique d'aller chez Netflix, mais là on parle de Bong Joon-ho sur un très gros budget. Le truc, c'est que j'ai du mal à croire, alors peut-être faudrait faire des concessions j'imagine, mais j'ai du mal à croire qu'un Cuaron, après le succès phénoménal de Gravity, ou un Scorsese avec la street cred qu'il a de malade, en fait, il puisse pas financer ces films-là en fait ailleurs que Netflix. Je sais qu'à mon avis, il y aurait forcément des concessions à faire, mais bon, quand tu réunis Pacino, De Niro de nouveau, Joe Pesci et tu t'appelles Scorsese, j'ai du mal à croire, même si peut-être que tu sors 6 ou 8 mois de plus de négoce, tu vois, pour faire le film et que peut-être ils veulent tourner tout de suite, j'ai du mal à croire qu'en fait il faille qu'il passe directement sur Netflix. L'autre truc aussi avec Netflix, c'est qu'il y a ce tournage en numérique imposé en fait apparemment sur chacune de ces productions-là, y compris pour des réalisateurs qui tournent en péloche quoi. Donc bon, ça fait partie des trucs où pour moi il y a une espèce de logique de nivellement pas visuel, mais on va dire, parce que c'est des auteurs après qui ont leur propre style quoi, mais où il faut utiliser un certain type de caméra, un certain type de trucs que j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi dans la chaîne de production c'est une obligation contractuelle quoi. Maintenant il y a des prods Netflix qui sont susceptibles de sortir en support physique hein, apparemment, enfin si c'en est une, si je dis pas de bêtises en fait. Le Daredevil, en fait, c'est sorti en Blu-ray, quoi, la série télé. Donc, si tu veux avoir Daredevil chez toi. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est, donc j'imagine que c'est une possibilité qu'à un moment donné, on est pas de règles. Bien sûr. Moi, le plus gros problème, mais là, j'imagine qu'en fait, on revient à la problématique de la chronologie des médias, c'est moi, à moins d'être un festivalier ou un journaliste de cinéma, comme ça a pu être le cas pour nous, parce qu'on a vu Okja en salle. En fait, on peut pas aller voir en salle ces films-là. Et c'est ça qui est effectivement problématique. C'est le plus gros truc. Aux États-Unis, apparemment, ils veulent. Enfin, Netflix pense acheter des salles de cinéma et diffuser.
C'est génial, c'est que Netflix va genre réinventer le cinéma. Enfin, ça serait complètement fou dans l'histoire.
Mais effectivement, le réinventer en prenant les films, des films qui sont des valeurs sûres, en fait. Effectivement, parce que quand tu vas chercher effectivement Scorsese, les frères Cohen.
Mais c'est ça qui est marrant, c'est que tu disais, voilà, ces films-là, enfin Scorsese, Cuaron, même Bong Joon-ho, au-delà de transpersonnages, mais je veux dire, c'est que c'est des gens que tu dis, en effet, il n'y a aucun problème à ce qu'on les finance, ces gars-là. Enfin, clairement, même les Alex Garland et tout ça, enfin, tu te dis quand même, ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Mais finalement, si, parce que c'est des films qui sont.
Il a été financé, son film, il a été racheté.
Justement, il a été racheté par la Paramount. Enfin, Paramount l'a vendu parce que il a peur de le sortir en salle. Oui. En fait, c'est ces petits plats. Donc, je prends le Scorsese, c'est un film qui sera très très cher, ne serait-ce que par son casting. Le Bong Joon-ho, c'est aussi un film qui quand même est déjà un peu risqué en termes de thématique, etc., et qui coûte cher. Et en fait, ces gens-là, donc les studios ont de plus en plus peur de sortir ce type de films-là qui sont risqués en box-office. On peut avoir un succès comme on peut avoir un échec. C'est-à-dire, si ça marche sur Netflix, Netflix, ça ne veut pas dire que ça marcherait dans la vraie vie. Dans le sens où les gens, Netflix, tu as l'impression de ne pas payer quand tu regardes, puisque tu as payé ton abonnement, donc c'est une sensation de gratuité. Que, est-ce que tu paierais, est-ce qu'un spectateur lambda paierait pour aller voir Okja aussi facilement? Et donc, en fait, les studios prennent de moins en moins de risques. Et derrière, il y a Netflix qui arrive en disant, nous, on vous fait un chèque en blanc. Il y a quasiment pas de limite, on vous fait un chèque. Et en plus, ils n'ont pas une méthode de production. Ils n'ont pas de producteurs. C'est-à-dire qu'ils sont pas derrière en train de dire, bah, on va vous faire un cut, on va vous, c'est, open bar, les gars. Et donc, en fait, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est bien et c'est pas bien, parce que, bon, bah, faire un film, ça nécessite un producteur, ne serait-ce que parfois pour faire rentrer des trucs dans les clous, ou avoir des idées, ou un dialogue, ou quoi
mais,
que ce soit.
Il y en a des producteurs sur ces films-là.
Il y a des producteurs, mais je veux dire, souvent, Netflix ne vient pas, lui, dire, vous avez pas le droit de, vous devez faire tant de minutes, ou tant de machins. Il y a pas beaucoup de règles, en fait. C'est-à-dire que Netflix fait littéralement le chèque et profite du nom. Mais en vrai, ils n'ont pas de logique derrière d'aller dire ben, on va faire un remontage, on va faire un truc. Et donc, en fait, c'est pour certains auteurs qui, en plus, derrière, ont des studios qui paniquent parce que, avec la multiplication des sorties, il y a je ne sais pas combien de films qui. Enfin, en France, il y a 18 films par semaine qui sortent à peu près, en moyenne. Et bien, donc, c'est très difficile de garder un film en salle, c'est très difficile de faire exister un film en termes de marketing. Non, je ne parle même pas pour les quand c'est plus petit. Et donc, c'est un gros risque de financier que de sortir en salle. Et donc, un investissement pareil, on a peur. Là où Netflix a beaucoup moins peur, parce qu'il a les financements, en fait. Mais, il peut le faire.
Mais c'est assez marrant, en fait, qu'ils aient cette espèce de logique, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'en gros, à partir du moment où il y a une logique de sécurité derrière, en fait, ils peuvent vendre n'importe quel film. Sur leur plateforme et ne jamais justifier en fait finalement à la fin combien de gens le regardent vraiment puisqu'ils en parlent pas, ils veulent pas en parler d'ailleurs. Et donc en fait tout ça en fait on rentre dans une espèce de, pour moi en fait c'est du cinéma réseau social en fait. C'est, je sais pas comment expliquer le truc mais en fait en gros ça veut dire est-ce que en fait il va avoir, parce que regarde, quand tu regardes un truc comme Stranger Things, quoi qu'il arrive en fait il y a cette espèce de logique d'algorithme en fait qui te propose en fait les prochains films que tu veux regarder voilà. Mais bon enfin l'algorithme mon cul hein. Moi Stranger Things j'en ai rien à foutre, il me propose la saison 2, la saison 12, la saison machin,
ça,
voilà.
C'est parce que c'est des produits maison qui mettent en œuvre.
Voilà, exactement. Donc le truc si tu veux c'est que à partir de ce moment-là eux ils ont cette espèce de logique où quoi qu'il arrive ça sera sur l'avant sur le on va dire la première étagère du vidéoclub si on doit faire une analogie et en gros tout ce qui compte c'est que pour l'instant en fait ils aient une énorme bonne presse. Et c'est le cas pour la plupart de ces films-là, en fait.
Pas
c'est-à-dire
du tout.
Que.
Alors, les films non, mais il y a plein étrier,
de
trucs.
Non, mais il y a plein de films de merde. Ça, je dis pas le contraire. Mais par exemple, un truc comme Stranger Things, ils vont énormément
oui,
mettre
les
en avant.
Séries, les séries sont marche bien. Mais alors, les films jusqu'à Roma, honnêtement, c'est un massacre de la presse à chaque
sauf
film.
Que, sauf qu'ils ont alors, tendance à retourner. Sauf qu'ils ont tendance à retourner ces choses-là à leur avantage. C'est ça que je parle quand je parle de trucs réseau social. Par exemple, un film comme Bright.
Oui, mais je pense à Bright. Ouais.
Quand tout le monde. Ouais, mais le film, c'est une merde, en fait. Et je veux dire, à un moment donné, peu importe qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils achètent ou pas. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est qu'ils sortent le truc, ils ont déjà financé la suite, parce que, j'imagine, parce que ça cartonne pour eux, et tout ce qui a été reproché au film, en fait, ils en font carrément des blagues sur Internet, en fait, en disant, bah oui, on annonce la suite, mais on va faire un truc à la Future Immédia, Los Angeles 1991, enfin, en gros, tout ce qui n'était pas du tout prévu, mais qui a été finalement remonté par les réseaux sociaux... Ils le réutilisent.
Ah oui, mais c'est
pour,
une autre. Je dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais c'est vrai que c'est une autre méthode de faire les films, de penser les films et les suites, et de se servir de la mauvaise presse pour le vendre.
Jusqu'au moment où ils vont avoir, je pense, un vrai retour de bâton. C'est-à-dire que, déjà, il y a un premier truc qui est plus ou moins dit, mais qui est quand même. Faut quand même le rappeler. Ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais c'est-à-dire que littéralement, ils ont, je crois, 30 milliards de dettes. Ils sont en dette. Hein. C'est-à-dire
oui, ils sont pas du tout à flot. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Donc bon, moi, je suis pas un grand économiste, mais enfin, on connaît le système du capitalisme. Donc, on sait quand mais ça bon, se casse la gueule, ça se casse vraiment la gueule, quoi. Et en fait, le deuxième truc, c'est que le jour où d'un seul coup, je sais pas, moi, il y aura, parce que ça va finir par leur arriver, hein, comment dire, une mauvaise presse qui sera vraiment une mauvaise presse, c'est-à-dire pas genre le film c'est de la merde, tu vois, mais ça c'est un film raciste, ou ça c'est un film, comment dire, xénophobe, enfin, je sais pas moi, enfin, etc., que ça soit, voilà, non mais voilà, que ça soit un truc, que ça soit un truc extrêmement violent. Bah là, en fait, ils vont commencer à se poser des questions sur le contenu qu'ils abordent. Et ce que j'entends par là, c'est pas encore arrivé pour eux, mais ça va forcément arriver. Et à ce moment-là, ils vont forcément se poser des questions et commencer à rentrer dans une logique de censure. Donc on verra qui ils arriveront à retenir à ce moment-là. On n'y est pas encore, mais disons que ce que ça révèle pour moi, c'est une façon d'aborder le cinéma qui est limite presque encore plus libéral que la façon en fait, dont les studios, néolibéral que la façon dont les studios même le jouent. C'est-à-dire que quand tu as Disney, pour prendre le meilleur exemple là-dessus, qui en gros, si on regarde leur gros line-up de l'année, c'est des remakes suite de leur dessin animé classique, du Marvel ou du Star Wars, en gros, hein, et après le reste des films, c'est vraiment les trucs, bah là on a un slot donc on les balance, quoi. Et en général, ils mettent pas trop de trucs derrière. Bah déjà, en fait, tu te dis, bon, là, on a quand même le summum du truc sans risque, tu vois. Bah là, en fait, eux, ils poussent, je trouve, le bouchon encore plus loin, en fait. C'est-à-dire que, alors, pour l'instant, ça marche parce qu'ils ont encore des auteurs, ils ont besoin de se faire une street cred, une répute.
Bah complètement, parce que jusque-là, c'était un massacre.
Mais bon, je te dis, le jour, enfin, indépendamment de la qualité des films, parce que ça, finalement, bon, je veux dire, on est bien placé pour le savoir, que ça dépend des goûts, ça dépend de machin, ça dépend de quoi. C'est quand il y a une très très mauvaise presse, et quand je parle de mauvaise presse, c'est vraiment une presse, comment dire, assassine au sens social du terme, que, à mon avis, le paradigme a changé.
Et, là, ça va être un gros truc de pillard, quoi. Enfin, c'est juste qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur les pillards, et ça va être que ça, quoi. Enfin, tous les autres studios qui ont eu des problèmes.
Encore une fois, la question, c'est, je pense, qu'est-ce que artistiquement Netflix est en train de créer, en fait ? Jusqu'à quel point ils capitalisent sur d'autres trucs et qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de créer en fait avec cette nouvelle force de frappe économique, ce nouveau système.
À court terme, on peut dire qu'on a des bons films, mais on peut potentiellement avoir des bons films.
Oui, voilà.
Mais à long terme, effectivement, c'est pas un studio.
À long terme, ils n'ont pas d'identité de studio, ça c'est sûr.
Et peut-être ça viendra. Et ce sera le sujet d'une prochaine émission. Et on parlera d'ailleurs de tous ces films qu'on a évoqués qui vont bientôt sortir sur Netflix. On enchaîne, mais avant notre prochain sujet, évidemment encore un petit jeu.
C'est dans Sergeant Pepper. C'est... Tu vas la fermer, oui ou merde. On parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov.
Et comme d'habitude, ce sera un jeu musical et même un jeu sur les musicals, puisqu'on va causer de Star is Born dans quelques instants. Perrine Kenson lève les bras en l'air. Je vous ai concocté un petit blind test spécial film où ça chante. Voilà, comme d'habitude, le premier qui trouve a gagné. Celui qui trouve pas, bah tant pis pour lui. Premier extrait.
Evil Dead 2.
Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Evil Dead 2. Non. Ouais, Stanley Donen, 1954. Seven Brides for Seven Brothers, les sept femmes de Barberousse. Même moi, je connais ça. C'est triste, les enfants. C'est triste.
C'est nul.
Un deuxième extrait, c'est parti.
C'est que des vieux, en fait.
Non, mais ça, quand même. Non, ça non plus. C'est terrible. Moi qui n'aime pas les films où ça chante.
Bah nous non plus en fait.
Non, mais
moi j'aime bien mais plus pas si vieux.
C'est My Fair Lady.
Ah bah ouais.
George Cukor, 1964.
Quand même. Snap.
Quand même. Bon allez, le prochain vous allez trouver obligé.
Ça c'est Phantom of a Paradise.
Ouais. Quand même. Ça putain, c'est mon Julien Dupuis. Bravo. Alors le quatrième, je suis pas sûr que vous trouviez quand même. Mais bon, on sait jamais.
Même si je connais ça en plus.
Tu connais ça?
Bah ouais, mais je sais pas pourquoi je connais.
Okay, j'étais la seule à me réjouir de ce truc et en fait je trouve rien, donc c'est bien.
C'est pas un dessin animé?
Non.
Attends. Merde, pourquoi je connais ça?
C'est un film de Robert Altman.
Ah, de la.
Avec Robin Williams.
Popeye,
c'est Popeye. Ouais, c'est Popeye. Ouais, oui. Bah ouais, non, mais c'est un souvenir traumatisant pour beaucoup de gens. Allez, le dernier, Stéphane, t'es obligé de trouver, je suis désolé,
ah bon
sinon je serais
triste. Sinon, je suis viré.
Sinon, ouais, non, quand même pas. Mais sinon, je serais triste. Allez, cinquième extrait. Bonjour, tu l'as peut-être jamais vu en VF.
Putain, je reconnais même pas la musique derrière.
C'est vrai?
C'est South Park, non?
Non.
Moi, parce que South Park, c'était en VO.
Ah oui, c'est vrai. Attends.
Rien du tout? Noël chez les Muppets.
Ah. Putain, ouais, non.
Ah, ouais. Muppet Christmas Carol. C'est ouais. Brian Henson, 90.
Ouais, mais Brian Henson.
Bah, je sais, mais bon, quand même, Noël chez les Muppets, quoi. Je veux dire, c'est un
ouais, mais Brian Henson, c'est le fils indigne de Jim.
Oh, tu me fais mal au cœur. Bah, vous êtes.
Bah, ceci dit, c'est son meilleur.
Ouais, bah, ouais, quand même. Merci, je sais pas pourquoi je vous remercie.
Non, on a été nul à chier, en plus, sur les Muppets, quoi.
Ouais, surtout sur les Muppets.
Merci, ma street cred complètement niquée.
Elle vient d'exploser. Tant pis, on attaque notre dernier sujet. avant les questions des internautes, évidemment. Dans la foulée de la sortie du pas très attendu, en tout cas pas par tout le monde, A Star Is Born de Bradley Cooper, avec ce dernier et Lady Gaga. Pourquoi pas. Remake, donc, voilà, je dis pas tout le monde. Remake, donc, pour la troisième fois du film de David Selznick de 1937, dont la version la plus connue est celle de 76 avec Barbara Streisand et Kris Kristofferson. Ce remake, donc, a fait ressurgir dans l'actualité un nom qu'on croyait oublié, celui du producteur John Peters, qui avait signé ses débuts dans le business avec ce film de 76 et qui a un crédit de producteur sur la nouvelle version, malgré de gros ennuis judiciaires sur le plan du harcèlement sexuel, donc pas très raccord avec l'époque, ce qui a entraîné par ailleurs une mise au point de la guilde des producteurs américains, disant qu'il n'était plus affilié à eux et donc qu'en cas d'Oscar, car oui, Star is Born et Warner espère très fort en avoir, il n'aurait pas, John Peters, le droit aux honneurs. Est-ce que c'est la fin de la figure du producteur hollywoodien tout puissant? Est-ce que c'est finalement pas plus mal, Julien?
Mais il y a encore des producteurs hollywoodiens, c'est la fin d'une époque en tout cas, mais le truc avec Peters, c'est qu'il est c'est la dernière pierre en fait à son mausolée en fait, hein. Parce qu'en plus, il a déclaré qu'il avait voté Donald Trump. Alors ça, Hollywood, c'est foutu. C'est puis en plus, possible, donc il ouais. y a ce truc-là. Il s'était fait virer du plateau de Man of Steel par Christopher Nolan, je crois. Donc oui, là, il est très mal en point. Après, il s'en fiche. Il a un certain âge aujourd'hui. Mmh. Et puis, il a énormément d'argent. Ce qui m'interpelle en fait avec cette anecdote, c'est que c'est la fin d'une catégorie de producteurs en fait assez spécifique, qui sont tous ces gros producteurs qui ont vu le jour, on va dire, à la fin des années 70, mais qui ont vraiment explosé dans les années 80-90. Et explosé dans tous les sens du terme d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais et qui étaient les descendants décadents, dégénérés, comme tu veux, des grands producteurs hollywoodiens, mais oui. qui étaient malgré tout quand même des grands producteurs. John Peters, c'est un mec, c'est une personnalité, il est plus grand que nature, il est truculent, c'est aussi une véritable ordure,
mais c'est visiblement
c'est aussi un séducteur aussi, c'est-à-dire il est rentré dans le métier comme ça, il était coiffeur de Barbara Streisand et il a couché avec elle, il est devenu son amant et c'est comme ça qu'en fait petit à petit il s'est retrouvé producteur et toute sa carrière a été comme ça émaillée de deal avec les studios qui était grotesque en fait, absolument aberrant. Et il me semble aujourd'hui qu'avec des gens comme Jason Blum, pour prendre un mec beaucoup plus petit, mais surtout Kevin Feige, qui est peut-être, j'imagine, la figure de producteur actuelle la plus connue, la plus populaire, la plus identifiée par le public, ben ça s'est perdu en fait. On n'a plus du tout ce genre de mec un peu taré en fait. Qui ont produit beaucoup de merde, qui ont fait beaucoup de mal pour Hollywood, mais qui aussi, de temps en temps, dans leur folie, dans leur lubie, se mettaient à financer des choses qui sortaient de l'ordinaire, qui sortaient un petit peu des clous, à donner leur chance à des choses qui n'auraient jamais dû être là, et à donner un truc un peu inattendu, en fait, au cinéma, et qui étaient aussi des vrais joueurs, des vrais parieurs, des mecs qui n'étaient pas tout le temps dans le calcul, voilà, qui ont grillé beaucoup d'argent, y compris surtout lui quand il était chez Sony, avec tout le temps un véritable côté putassier. Mais il y avait un truc fou en fait chez John Peters. En fait, gars a quand même vraiment envisagé de faire Batman, le premier, avec Bill Murray et Eddie Murphy. Ils ont vraiment étudié le truc, quoi. Et il y a des choses de ce développement-là qui sont retrouvées sur le film de Burton, par exemple, quoi. Tu vois, et ça, le mec l'a sérieusement envisagé.
Ça se discute beaucoup, moi, je trouve, sur quelqu'un comme John Peters, parce que je pense pas que ça soit, par exemple, comme Bruckheimer ou Simpson ou Joel Silver, pour prendre des figures de cette époque-là. En fait, quelqu'un qui a une vraie aura artistique en fait sur les films, quoi. C'est-à-dire que il a une ascendance artistique, ça c'est sûr et certain, généralement pour le pire. C'est-à-dire que en gros, on sait que sur le Batman de Burton, justement où il a une grosse assise, tous les problèmes aujourd'hui que Burton a eu et qu'il a justement essayé de faire en sorte de dégager le producteur sur la suite, même s'il a un crédit de producteur exécutif. C'est lié en fait à la folie des grandeurs de John Peters. John Peters, c'est le mec qui va te ramener effectivement Jack Nicholson parce qu'il va le payer un pont d'or, mais c'est une question de pognon en fait.
Même qui lui organise dans un hôtel londonien pour une visite de plateau de la presse. C'est ça aussi qui est rigolo avec un mec comme John Peters. Il a transformé un hôtel, un grand hôtel londonien, en véritable bordel avec plein de cocaïne et des prostituées partout, etc. Mais par contre,
C'est rigolo, mais c'est en même temps.
C'est rigolo. Non, mais en même temps, c'est à lui qu'on doit Michael Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne. C'est-à-dire que c'est pas une idée. On pense tout le temps, on pense tout le temps que c'est Burton en fait qui a ramené Michael Keaton. Non, Burton n'était pas seulement vraiment pour ça. En fait, c'est vraiment une idée de John Peters et qui a affronté avec beaucoup de bravas comme ça tous les fans en fait qui étaient complètement contre cette idée de production. Donc non, ça se discute. Et puis même sur le rat, on va dire un petit peu plus comment dire consensuel. Si tu veux aller par là, c'est lui aussi qui monte Rain Man, si mes souvenirs sont bons, des choses
mais
comme ça.
Mais c'est pareil, voilà. En fait, c'est des films comme Rain Man, c'est des films qui sont passés entre les mains de gens comme Steven Spielberg, donc j'imagine qu'en fait, il en reste forcément quelque chose quand c'est Barry Levinson qui récupère le projet, quoi. Moi, je pense que l'aura de Joe Pinter est très étrange, en fait, je trouve, à Hollywood, parce que, bon, il y a les histoires de crapoteuses, en fait, qui ressortent, quoi, avec le type, comme ce qui est sorti l'an dernier avec Weinstein ou les mecs comme ça. Et je pense pas qu'il y ait forcément une corrélation, mais ça serait quand même marrant d'aller voir en fait comment en fait tous ces putains de sagouins en fait quel cadavre ils peuvent avoir dans le placard en fait fondamentalement pour que ce genre de truc ressorte au final quoi. Je parle à la base de la façon dont ils vont fonctionner avec les gens sur les films et la façon dont ils en ont rien à foutre finalement des films qu'ils font. Versus, ils n'ont rien à foutre des gens tout court, donc en fait ils peuvent sortir leur bite devant n'importe qui et ils pensent que ça va passer quoi. C'est un peu le problème d'Hollywood de manière générale, je pense. Par exemple, bon, je pense que tout le monde connaît cette anecdote, tous les gens qui nous suivent connaissent cette anecdote, mais moi je l'aime bien donc je vais la raconter quoi. Donc c'est Kevin Smith qui a raconté ça. J'ai toujours regardé les stand-up, moi j'appelle ça les stand-up de Kevin Smith en fait, parce qu'il t'apprend des trucs parce qu'il est le seul à en avoir rien à foutre et à y aller quoi. Et notamment, il raconte sa rencontre avec John Peters, qui était sur justement le projet de Superman qui a été fait par Burton dans les années 90, justement à cause du succès de Batman. C'est-à-dire que, en gros, parce que son nom est associé à Batman, parce que Batman avait été un carton atomique à l'époque, Warner se disait bon bah de toute façon il faut que faut qu'on ait quelqu'un qui va nous a plus ou moins nous assurer que qu'il sait de quoi il parle, même si en l'occurrence John Peters il n'y a tellement rien à foutre en fait des comic books, comme c'est d'ailleurs le cas apparemment de Burton aussi hein. mais lui jusqu'à un point assez énorme, puisque comme le révèle Kevin Smith quand il est allé sur place là-bas pour faire une lecture de son scénario, John Peters avait trois requêtes. Alors il faudrait que je me souvienne lesquelles, mais il y en a parmi les requêtes en question, il y a notamment le fait que Superman ne vole pas. Ah, tu connais pas l'anecdote en fait,
tu regardes avec des gros yeux,
qu'il n'a pas de cap parce que ça fait trop pédé. Et ça c'est les termes qu'il utilise John Peters. Et en gros, il fallait qu'il y ait un combat contre une araignée géante à la fin du film, quoi. Dans la forteresse de solitude. Et en fait, t'as Kevin Smith qui donc le racontera beaucoup mieux que moi. Allez voir, le DVD, c'est parce que je ne pense pas qu'on trouve ça sur iTunes. An Evening with Kevin Smith. C'est un long monologue, en gros, quasiment de Kevin Smith pendant 4 heures. En fait, il couvre plein d'anecdotes, et notamment il y a celle-là. Et en fait, Kevin Smith raconte comment il a essayé en fait de jouer, parce qu'il était obligé quelque part en fait de faire rentrer ses demandes. Donc, par exemple, au lieu du fait que Superman vole, en fait, il fait des espèces de bons supersoniques, et donc d'un seul coup,
ça crée une espèce de... C'est le cas dans la BD, ceci étant.
Mais voilà, et donc du coup, en fait, ça forme une espèce de truc rouge qui ferait penser à sa cape quand il s'envole. Enfin voilà. Pareil, il fallait rajouter parce qu'il n'y avait pas que le combat contre l'araignée, il fallait rajouter des combats contre des ours polaires, parce que ça se passe dans la forteresse de solitude, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en gros, à la fin, à chaque fois qu'il revenait en fait en allant voir les exécutifs de studio, en leur disant mais pourquoi en fait on bosse avec lui, les mecs lui disent c'est obligatoire. Ouais. Et il en ressort, en fait, que, par exemple, il y a une autre anecdote dans le même cadre, en fait, à l'époque, Kevin Smith venait de faire Chasing Amy. Ouais. Et il y avait, donc Chasing Amy, c'est son troisième film, c'est une histoire d'amour entre un hétéro et une lesbienne. Et en gros, donc c'est dans le milieu LGBT. Et en fait, le truc, c'est que de l'époque. Et en gros, il y avait un personnage de noir gay militant dans le film, qui apparemment a beaucoup plu à John Peters quand il a vu le film, et il a demandé à ce qu'on crée un petit robot qui aurait la voix de ce personnage-là, et en fait, de cet acteur-là, quoi. Et en gros, en fait, Kevin Smith lui dit, ok, moi j'ai pas de problème, mais tu veux qu'on... Oui, parce qu'il nous faut des jouets, il n'y a pas de jouets dans ce putain de film, il faut des jouets, il faut qu'on puisse vendre des jouets. Et en gros, t'as Kevin Smith qui lui dit, mais tu veux qu'il ait une voix de black gay militant. Ouais. Enfin, le mec, il est complètement. Enfin, c'est même. Enfin, à ce niveau-là, c'est même plus.
C'était l'époque où il était le plus camé, hein, je crois. Ouais. Aussi,
Et l'on ressent en fait au final quand tu regardes tout ça que apparemment, et ça, c'est un constat qui s'est beaucoup fait à Hollywood. Le mec a le QI d'une pine d'huître, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'il est, et apparemment, il est à limite borderline débile, quoi. Donc ouais, moi, j'ai du mal à lui accorder, une influence positive, on va dire, artistique, oui, sur les productions qu'il a. Je pense qu'il y a beaucoup de bagout, beaucoup de j'imagine qu'il doit avoir séquestrer un ou deux gamins de chef de studio dans son truc pour arriver à se retrouver sur des projets comme Man of Steel, Superman Returns, juste parce qu'en fait, quelque part, à un moment donné, dans son contrat, il y a une clause en fait qui fait que on est obligé d'aller le voir. Et là, sur Star Is Born, c'est pareil, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour que ce remake se fasse, et déjà sa version, je crois, si je dis pas de conneries, c'était déjà un remake. Hein,
déjà un remake de David Slimane.
Voilà, le truc, c'est que en fait, il fallait qu'il y ait l'assentiment du parrain. Et là, tout est dit, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de logique de mafieux, en fait, qui ressort chez le bonhomme. Donc, c'est voilà. Moi, ça, c'est pas un Joel Silver. Pour moi, c'est même pas un Bruckheimer, un Simpson. Simpson était un gros dégueulasse. Hein. Si tu lis sa biographie, c'était hallucinant. Hein. C'est un porc, le mec. C'était un porc. Mais le truc, c'est que je pense que c'était. Je pense que dans sa folie, il pouvait avoir des éclairs.
Je me suis fait l'avocat du diable, évidemment. C'est pas un grand producteur, rien de là. Enfin, je répète, c'est encore une fois l'avatar dégénère des trucs. Mais c'est quand même une époque où il y a une permission de folie, en fait. Là, dans tout n'est pas carré, tout n'est pas maîtrisé. Et d'ailleurs, le dernier truc qu'il a fait, des derniers trucs notables qu'il ait fait, c'est ouais, si je me trompe pas. C'est une production, même Avengers Infinity War, c'est plus là-dedans, en fait. C'est n'importe quoi, cette production. C'est un film de merde, c'est horrible, c'est irregardable et tout, mais c'est un film qui a dépensé, mais
ça
sans compter,
au cinéma, à l'époque,
pour rien, quoi. C'est-à-dire, je me rappelle que le train, en fait, qu'ils ont n'était constitué que de matériaux nobles ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui, il me semble, a vraiment disparu aujourd'hui à Hollywood, quoi. Tu n'as plus du tout et qui va avec le côté saltimbanque, en fait, y compris dans son côté crapuleux, y compris dans le côté roublard, y compris dans le mec qui signe un vieux contrat et il se trouve qu'il s'est fait 80 millions de dollars sur Man of Steel et Superman Returns, a priori en ne foutant quasiment rien, quoi. Voilà.
Perrine.
Non, bah, pour être
honnête,
oui, moi je l'avais vu à l'époque. J'ai trouvé ça sympa. Mais bon, la question est pas là. Non, c'est juste que, honnêtement, quand ce sujet de John Peters a été proposé pour l'émission, je vais être tout à fait franche, je ne savais même pas qui était John Peters.
Ah.
J'en avais vraiment aucune idée. Donc, pour être tout à fait franche, c'est vrai que d'un seul coup, j'ai regardé et je me suis dit, d'accord, oui, c'est tout à fait l'époque de Joel Silver, tout ça. Enfin, je vois le type de personnage que c'est, quoi. Mais clairement, et d'autant plus que là, il revient dans la presse parce que cette histoire de Star Is Born et parce que l'allégation, enfin le fait qu'il se serait exposé devant une de ses assistantes et la fille de cette assistante, enfin voilà. Donc, littéralement, c'est pas du tout quelqu'un que je vois ce que tu veux dire, Julien, quand tu dis que il y a quelque chose de très policé maintenant dans la plupart des producteurs, etc. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que maintenant, il y a c'est plus les grandes productions même des années 40 ou 30 où d'un seul coup c'était vraiment over the top, c'était beaucoup trop gros, c'était beaucoup trop, c'était n'importe quoi. Puis il y a les excès des années 80-90 qui résultent à ce qu'on entend parler maintenant depuis l'affaire Weinstein. Et c'est pas quelque chose enfin, ce type là ne m'intéresse pas beaucoup.
Très bien.
Voilà.
Non, c'est bien résumé. On approche de la fin, messieurs, dames, mais vous pensiez y échapper. Mais non, il y a encore un jeu.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Celui-là, vous savez, je l'adore, c'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration, comme à chaque fois.
J'ai cru comprendre que tu étais homme à dégoter des trucs.
Oui, c'est vrai que je dégote des trucs de temps en temps, mais ça dépend quoi. Qu'est-ce que tu veux ?
Aïta et moi.
Quoi ?
C'est Les Évadés.
Ouais, Julien Dupuis, bravo, Les Évadés de Franck Darabont. Bravo, bravo. J'avais laissé un indice, un gros indice dedans.
Ah oui, bien sûr.
Aïta et
non, mais j'ai reconnu la voix de Morgan Freeman.
Ah, j'étais en train de chercher justement le visuel, me parle cette fois.
Mais moi, mais j'habitais pas à Paris, donc je vais filmer.
Ah oui, c'est ça. Allez, allez, allez. Juste avant de conclure, on va passer à la suite. Les...
Internet.
Toujours bien cette petite virgule. Elle marche toujours. On va déballer quelques questions de nos amis internautes qui nous ont envoyé des petites interrogations pendant qu'on papotait les uns les autres. Tiens, JT qui par exemple nous demande Mortal Engine, ça sent plus très bon comme film ? Non, point d'interrogation.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Il nous demande. Est-ce que vous êtes enthousiaste par Mortal Engines ? Non.
Moi, curieux au moins. C'est un film qui propose un nouvel univers. Je me demande ce que ce réalisateur-là, Christian Rivers, c'est ça ? Va donner sur un film en solo, parce que ce qu'il a fait, moi j'ai des grosses réserves sur la trilogie du Hobbit, mais par contre je trouve que ce qu'il a accompli sur le film et son travail est parfois intéressant. Et puis je trouve que quand Peter Jackson et Fran Walsh sont dans le coin à la prod, ben en général ça te donne quand même des trucs au minimum en fait qui t'offrent quelque chose de satisfaisant. Après je suis pas sûr que le studio sache vraiment. Bah, on se retrouve dans la même problématique quand un studio doit proposer un nouvel univers et une nouvelle franchise. En fait, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop par quel bout le prendre. Il y a eu cette tentative d'inclure en fait les internautes, je crois, dans de la promotion et tout. Je trouvais un peu ridicule. En plus, c'était payé, quoi, si mes souvenirs sont bons. Enfin, je me suis pas trop intéressé à ça. Moi, je regarde surtout les bandes annonces et tout. Donc non, moi je suis. Il y a au moins 2-3 images en fait là-dedans qui m'interpellent. Puis le steampunk, c'est quand même un genre qui n'est pas si représenté que ça quand même au cinéma. Et c'est un univers visuel qui est quand même chouette, quoi. Enfin, moi j'ai envie d'en voir plus des films comme ça. Donc je sais pas, non, pourquoi.
Steph, Perrine, non. Bah, pas d'attente.
On peut penser qu'ils peuvent.
Moi, je suis contente en tout cas.
Avoir la main à la pâte aussi, c'est ça le truc avec Peter Jackson. C'est que je sais pas jusqu'à quel point. Je vais pas enlever le travail que le mec va fournir, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de contrôle de la part de Peter Jackson et Fran Walsh. Et puis, enfin,
il y a Philippe Aboyan au scénario.
Ouais, mais en fait, ça se vérifie un tout petit peu dans certaines autres prods. C'est-à-dire que après, on peut. Voilà, je veux dire un film comme District 9. Quand tu le compares par exemple à Elysium, ça se voit en fait qu'il y avait une mainmise sur le scénario qui était un peu plus prononcée, je trouve, que sur Elysium, où ils n'ont pas du tout travaillé. Donc, enfin, moi je trouve, je pense que ça s'explique comme ça, et du coup, en fait, je me l'explique comme ça en tout cas. Mais donc, j'imagine que oui, pour moi, le film il a du potentiel effectivement. Après, le fait que ça sente pas bon entre guillemets, c'est surtout que j'ai l'impression que y a pas vraiment d'attente autour du film. C'est surtout ça le souci, quoi, je pense.
Il y a un risque de sortie un peu massacrée.
Et ouais, s'ils veulent créer une franchise ou quoi, voilà quoi.
Très bien. Xav nous demande s'il y a un projet en route pour Andrew Stanton, en espérant que ce soit en dehors de Pixar, précise-t-il. Je ne sais pas pourquoi.
Je pense que c'est une suite à John Carter, en fait. Tout le monde attend.
Et ça n'arrivera pas.
Non, ça n'arrivera pas. Moi, je serais bien en peine de vous le dire, quoi. Je sais même pas si lui il le sait, en fait.
Décidé encore.
Mais je pense que c'est quelqu'un qui veut continuer à vouloir travailler dans le live, à tel point qu'il avait signé certains épisodes de la seconde saison de Stranger Things.
Oui.
Ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux.
Les mieux de la saison.
Et lui reste extrêmement, à juste titre, pour moi, il reste très, très, très attaché à John Carter. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir en parler directement avec lui. Il est absolument désolé de ce qui s'est passé autour de la sortie du film. Et constate, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait énormément de retours, en fait, sur le film. C'est-à-dire que c'est pas un film qui a été oublié, John Carter. Et la preuve, on a cette question. Oui. Mais après, sur ces projets, je ne sais pas.
Très bien. On nous demande ce que l'on pense de la shortlist des 5 films français pour l'Oscar du film étranger. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Moi, je l'ai là, sous la main. Il y a Climax de Gaspard Noé, La douleur d'Emmanuel Finkel, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret et Les quatre sœurs de Claude Lanzmann.
C'est pour vous, c'est pour
vous. Pour moi, le choix n'a pas de... Il n'y a pas de doute, pour moi, c'est Jusqu'à la garde de Le Grand. Parce que dans tout le film, je ne remets pas en question, n'ayant pas vu par exemple Mademoiselle de Jonquière ou même La Douleur, c'est un film, c'est un très très grand film, c'est un grand 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 film de mise en scène, et c'est un sujet fort, excessivement bien traité. Pour moi, c'est le film qui fera parler de lui surtout au César l'année prochaine. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est le film qui a le plus de chances de avec ses thématiques sur voilà la violence, la violence comment ouais, conjugale, conjugale. La, cas, c'est la violence conjugale dans ce cas-là, la violence faite homme plus généralement, qui a le plus de chances de d'attirer le regard américain aussi, parce que mine de rien, l'un des acteurs principaux, c'est Denis Ménochet, qui est quand même l'un des seuls acteurs qui est vraiment identifié aussi aux États-Unis. Donc après Climax, pourquoi pas, mais je crois pas que Noé ait une vraie street cred aux États-Unis.
Ah si, si.
Vraiment ? Ouais. J'ai pas cette sensation.
Mais après, dans la profession, quoi. Donc,
oui, voilà, j'ai pas l'impression que, ouais, de ce niveau-là, je veux dire, au moins qu'il passe la deuxième, la shortlist, parce qu'on propose le film, on n'est pas en compétition, on propose le film. Donc, je suis pas sûre. Voilà, après, je trouve que les autres films, sans remettre encore une fois en question leur qualité ou leur défaut, c'est pas ça. C'est un peu ce qu'il fallait choisir 5 films, en fait, et qu'il n'y a pas vraiment de films français cette année qui se dégage plus que ça. Et je trouve que, pour le coup, esthétiquement, Climax, et encore plus pour moi Jusqu'à la garde, sont ceux qui se détachent le plus et qui sont les plus intéressants cette année.
Très bien. Lucio nous demande notre avis sur Upgrade, qui sort en salle en octobre. Alors je vais préciser que nous avons enregistré juste avant cette émission une émission sur Upgrade qu'on publiera donc à l'occasion de sa sortie en salle. Je vais vous résumer ce qui s'est dit.
C'est sympa.
Stéphane a dit c'est une grosse merde. Julien a dit c'est un film qui sait pas ce qu'il veut nous raconter, et Perrine a dit ça va. Ça va. Elle a essayé de dire ça va.
C'était
compliqué pour elle de dire ça va.
La synthèse, quoi.
Voilà. Donc il y aura une émission sur Upgrade. On nous demande, le même Lucio nous demande un petit mot sur les Emmy Awards de hier soir. Si on a un avis sur le Palmarès.
Mais moi, je suis désolé, je suis pas du tout moi.
On a le même.
Ça m'intéresse tellement pas moi ces trucs-là.
Les séries.
Non, pas les séries, les remises de prix, les machins comme ça.
Les décorations, les hochets. Non. Ouais. Bah, moi je suis très content pour Mrs. Maisel, voilà. Et Perrin Kenson aussi, parce que c'est une excellente série.
Moi j'ai vu passer un truc, c'est que apparemment People vs O.J. Simpson, mais c'est ça, non?
Non, c'est American Crime Story.
C'est la deuxième American Crime Story, mais j'ai pas encore vu la deuxième.
C'est
une sorte
de
Divatchassé
qui a eu deux prix, je crois. Deux, trois,
neuf nominations et deux prix.
Deux prix, ouais. Et Game of Thrones en a eu deux.
Oui.
Et après, c'était...
Mrs. Maisel, on a raflé plein. Il y a The Crown aussi.
The Crown, oui, parce qu'en fait, c'était l'occasion de récompenser Claire Foy, en fait. C'est-à-dire que, comme c'était... Elle joue plus dans la prochaine saison, ils voulaient absolument récompenser Claire Foy. Donc oui, non, c'était... En vrai, les prix étaient assez attendus, mais j'étais juste très contente pour Mrs. Maisel, voilà. qui est vraiment formidable.
Ouais. Voilà, regardez-la.
Supercopter, il n'a jamais rien eu.
Non,
bah non, je suis désolée.
C'est triste.
Non, il a tout
triste.
Perdu contre Bumbo.
Voilà. Giorgio nous demande, à quand un McTiernan sur Netflix ou ailleurs? Je ne sais pas. McTiernan sur Netflix, nous n'avons pas la réponse, mais non. On aimerait bien. Et ou ailleurs au cinéma, pas d'infos sur un tournage, sur des
alors
projets.
Ils font Deadwood si tu veux, apparemment, mais je crois que c'est pour.
Non, mais McTiernan, je dis.
Ah, McTiernan.
Oui, c'est ça la question. Non, à quand McTiernan sur Netflix?
Ah ouais.
Ou ailleurs. Ou ailleurs.
Ah, d'accord. Ouais. Pff, j'ai compris The Wire. Non, je suis fatigué.
Ça fait déjà 18 heures qu'on est en train d'enregistrer.
Mais en fait, on nous a déjà posé la question il y a 6 mois.
Ouais, mais on nous la repose régulièrement, tu sais.
Eh bah,
ben, toujours pas de réponse.
Toujours pas de réponse. Ok, très bien, très bien. On nous demande un avis sur Predator depuis les trailers. Moi, je trouve ça assez moche, nous dit Samurai Jack. Alors, je annonce qu'on va enregistrer une émission sur Predator, donc on ne va pas spoiler tout de suite nos avis. Non, si, oui. Toi, Stéphane, tu l'as vu? On peut le dire.
Ouais, c'est un film. C'est un film qui a beaucoup de problèmes parce qu'il a beaucoup de problèmes avec le studio. C'est un film qui a aussi des problèmes parce que, enfin, c'est un vrai film. Enfin, c'est un film de Shane Black avant d'être un Predator. La logique de Predator, c'est qu'il rentre pas vraiment totalement comme il faut dans le récit. Qui est déjà coupé dans tous les sens. Enfin voilà, il y a beaucoup de coupes, beaucoup de problèmes, beaucoup de reshoots. Donc voilà, moi c'est un film pour lequel j'ai de l'affection, que j'ai vraiment envie de revoir. En fait, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir malgré tout, parce que c'est bourré de personnages badass, de punchlines, de voilà, et que moi je vais au cinéma pour ça.
Très bien, on n'en dit pas plus, on garde le reste pour l'émission qu'on enregistrera autour de Predator. Dernière question pour finir, on nous demande nos attentes, ou pas d'ailleurs, autour de la balade de Buster Scruggs, donc des frères Cohen, qui est l'anthologie qu'ils ont fabriquée pour Netflix, qui devait être en 6 épisodes, mais je crois que finalement sera un film en, un film en 6 chapitres où je n'ai pas bien compris toute l'organisation du truc. Qu'est-ce qu'on des attentes autour de ce projet des frères Cohen pour Netflix? Non,
j'ai même pas regardé la bande annonce.
Ah,
en fait, si je vais la regarder quoi qu'il arrive, c'est les frères Cohen quoi. Ouais. Mais
pas d'attente particulière.
Non, enfin c'est un western.
C'est frères Cohen.
Voilà,
j'ai un point barre.
J'ai juste pas eu le temps de me regarder avant.
Ah oui, d'accord, ouais. c'est pas une absence.
Non, pas du tout. Non,
donc, c'est la vie de Stéphane Moïsakis et des autres dans un prochain dossier club.
Quand on aura vu la bande.
Quand on aura regardé la bande.
Non, mais ce qui est intéressant quand ils font du western, les Cohen, c'est qu'il y a toujours un. Mais comme quand ils abordent n'importe quel genre, il y a un décalage, il y a un discours sur le genre, il y a une approche qui est toujours intéressante, quoi qu'il en soit. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas ici. Quoi.
Non,
surtout qu'ils reviennent là-dessus. Donc c'est bien.
D'ailleurs, Perrine, tu voulais rajouter ?
Non, j'avais une anecdote. Parce qu'en fait, hier, j'étais à la première des Frères Sisters.
Oui.
Et il y avait Jacques Audiard qui disait qu'il avait dîné avec Ethan Cohen et qui avait fait True Grit peu de temps avant. Il dit, moi aussi, je vais faire un western, donc les Frères Sisters. Et il lui dit, c'est quoi votre conseil pour faire un western, quoi ? Et donc Ethan, après un grand moment, enfin ce qui a semblé 10 minutes visiblement pour Jacques Audiard, mais qui en fait était genre 30 secondes, il lui a dit « méfie-toi des chevaux ». C'était son seul conseil.
Un super slogan pour un t-shirt. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce No Ciné Club. Merci à Quentin, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, à Alban et Juliette pour les petites questions qui sont arrivées jusqu'à nous. Binge.audio. Il est tard. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Ta gueule ! Viens ici, sale enculé !
Salaud !
Binge.